Bonjour et bienvenue à tous dans la matinale
infernale.
Et oui, la matinale en est à sa 5e saison et je vous rappelle que c'est l'émission de Graphite qui dynamite votre réveil. Le principe, former des amateurs de divers horizons à la création de chroniques pour la radio à travers une série d'ateliers qui ont lieu à la bibliothèque Saint-Corneille. Moi, c'est Aurore, j'anime ou participe déjà à d'autres émissions sur Graphite, comme les rendez-vous culture et séries des bibliothèques ou le Tilt Show. Aujourd'hui, dans le studio, je souhaite la bienvenue ce matin à nos chroniqueurs Antoine.
Salut.
Elsa.
Bonjour.
La marin baladeuse.
Bonjour.
Et Fatine, la féministe.
Hello.
D'ailleurs, si certains auditeurs ont envie de découvrir nos ateliers ou d'assister à nos émissions, c'est possible, il n'y a qu'à me contacter. Je suis sûre qu'on peut arranger ça. Sur Insta ou sur Facebook, @AYGBleu, voilà, c'est mon nom quand j'écris des bouquins, en l'occurrence. Voilà, AYGBleu, c'est là que vous me trouverez. Allez, ce matin sur Graphite, on commence avec une vague de féminisme grâce à Fatih.
Hello tout le monde! Après donc la première, la deuxième et la troisième vague du féminisme, je m'en vais vous parler aujourd'hui de la quatrième vague. Nous naviguons dessus depuis une quinzaine d'années, telles des surfeuses et des surfeurs, à la recherche du point d'équilibre sur la planche glissante du genre, en évitant de se faire croquer au passage par des requins mâles ou femelles extrémistes en tout genre. Cette quatrième vague se caractérise par l'utilisation massive du numérique, air du temps oblige. Et c'est bien pratique. Les femmes et les minorités de genre peuvent raconter leurs histoires directement au public sans passer par le filtre des médias traditionnels. Les mouvements locaux deviennent instantanément globaux, ce qui crée une sororité, voire une solidarité mondiale. On dit donc merci à l'activisme par le hashtag qui a ainsi permis de quantifier l'ampleur des violences sexistes. Mais bien entendu, il y a le revers de la médaille au tout numérique. Que sont ? Eh bien, le cyberharcèlement. En effet, les militantes féministes sont la cible de raids numériques violents, tels que le doxing. Vous savez ce que c'est le doxing ? Vous voulez le savoir ?
Oui, vas-y.
Eh bien, le doxing consiste à rechercher et à divulguer publiquement des informations personnelles et privées sur Internet, dans le but de nuire, harceler ou intimider une personne. C'est une pratique malveillante qui relève de la diffamation ou encore de l'atteinte, évidemment, à la vie privée. Revers de la médaille, au tout numérique encore, avec l'activisme performatif. C'est-à-dire que le soutien se limite à partager un post Instagram sans action concrète derrière. Et oui, on l'a toutes et tous fait, moi la première. Un genre d'activisme de salon, quoi, avec peu d'efforts, relax. Un autre revers de la médaille, avec la cancel culture, qu'on pourrait traduire comme la culture du bannissement ou de l'effacement. Elle se pratique sur les réseaux sociaux en dénonçant et ostracisant des personnes, entreprises ou encore des œuvres jugées problématiques, car racistes, sexistes ou encore transphobes, par exemple. Il y a donc boycottage et exclusion de la sphère publique. C'est efficace, mais avec une dérive quand même vers le cyberharcèlement et vers une justice expéditive, sans nuance et sans débat. Et je vous le rappelle, débat et liberté d'expression sont quand même les piliers de nos démocraties. Un dernier revers de médaille, eh bien, la montée visible des masculinistes. Visible, car ils ont toujours existé. Mais j'y reviendrai peut-être dans une autre chronique. Donc vous vous demandez, qu'apporte donc dans nos vies cette quatrième vague ? Que vient-elle chambouler ? Eh bien, suite au prochain numéro, enfin, à la prochaine chronique.
Et on n'attendra pas longtemps, attention spoiler.
restez sur les ondes.
Merci beaucoup Fatih. On va rester sur cette tendance sportive qui nous a mis un peu dans le bain avec cette entrée en matière sur le surf. Et on va continuer avec notre chroniqueur Antoine qui nous parle toujours de l'athlétisme.
Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Ta balance fait trop la gueule, il va falloir éliminer. Faut souffrir pour être beau, pour pas se faire photoshopper. Ne t'arrête pas quand t'as mal, mais plutôt quand t'as tout donné, oui tout donné.
Salut tout le monde,
Aujourd'hui, je vais vous présenter les compétitions en athlétisme. Les compétitions pour amateurs et professionnels représentent un même effort. Je vous raconte comment cela se passe.
Allez.
Il y a trois types d'épreuves en athlétisme, le lancer, le saut et la course. Amateurs comme professionnels peuvent concourir aux mêmes épreuves. Souvent, dans les compétitions amateurs, il y a le lancer de poids, de disque et de javelot. Pour le saut, il y a le triple saut et le saut en longueur. Pour les filles, le saut en hauteur. La course comprend les courses de vitesse 50 mètres, 100 mètres et 200 mètres et le demi-fond 1000 mètres, 5000 mètres, 10 000 mètres ou le fond semi-marathon, marathon.
Ouh, je suis épuisée déjà.
Les épreuves ne sont pas les mêmes selon l'hiver ou l'été. Pour les amateurs, il y a des championnats à tous les niveaux, départemental, régional, national. Par exemple, les crosses, les championnats de France, de trail ou de marathon, etc. Pour les professionnels, les compétitions vont jusqu'au niveau international, championnats du monde, Jeux olympiques.
Eh oui.
Il y a beaucoup d'efforts à fournir pour préparer une compétition en athlétisme. Par exemple, pour les entraînements, il y a plusieurs étapes pour l'épreuve à préparer. Les entraînements se Par exemple, pour un cross, voici les grandes étapes de préparation. Préparation générale à la reprise de l'entraînement. Il faut faire la préparation physique générale, PPG, qui est un ensemble d'exercices qui permettent de renforcer le système articulaire et musculaire et le développement du foncier et de la VMA. Vitesse maximale aérobie.
Ah. Merci pour la précision.
Phase finale. Pour bien préparer une compétition en athlétisme, il est crucial de réduire progressivement le volume et l'intensité des entraînements. La semaine précédant l'événement, pour éviter le surentraînement, la veille de la compétition, une très légère activité pour préparer le corps. La nutrition est un élément à ne pas négliger pour bien se préparer à une compétition. Avant les compétitions, le sportif doit manger des repas spéciaux au moins 10 heures avant l'épreuve. Les repas doivent se composer de glucides lents pour avoir du sucre pour l'épreuve. Ces sucres lents se trouvent dans les pâtes, pommes de terre, le riz, tous les féculents. Le sportif doit également s'alimenter avec des protéines. Juste avant l'épreuve, le sportif prendra des sucres rapides, tels que des barres énergétiques, des gâteaux, tout ce qui contient du sucre rapide. Le sportif doit également bien s'hydrater. Le jour J, la concentration pour performer. Avant l'épreuve, il faut être très concentré, souvent faire des exercices de respiration et de relaxation pour être le moins stressé pour réussir l'épreuve.
Eh oui, on n'y pense pas assez souvent.
C'est vrai.
Au moment de l'épreuve, il y a des juges arbitres, par exemple pour une course, ils donnent le départ, regardent l'arrivée des coureurs, mais ils arbitrent aussi les autres épreuves, par exemple ils mesurent les lancers et les sauts, ensuite ils nettoient les sauts. Le sportif doit rester concentré pendant toute l'épreuve s'il veut faire un bon classement. Les compétitions demandent beaucoup d'efforts, il faut s'entraîner, adapter son alimentation, savoir se concentrer. Les compétitions permettent de se dépasser, d'être content de cette performance. Malgré toute la préparation, il faut faire attention car cela peut se terminer par une blessure.
Ah ouais, la chute. Ah, la blessure.
La blessure, ça fait mal.
Ça me scie toute cette préparation. Et effectivement, ça, on en voit à chaque fois, même au JO et tout, ça arrive. Ah non, mais ça me scie toute cette préparation, manger des pâtes. Ça aussi, à la cantine, quand il y a des crosses pendant les collèges et tout ça.
Ah nous, ils ne nous donnent pas des pâtes.
Ah bon?
Parce que nous, le cross, c'est le matin.
Ah.
Oui.
Oui, du coup...
Tu les as mangés chez toi?
Non, bonjour.
Comment ça? Tu manges pas des pâtes avant le cross du collège? La veille, au soir? Faire une réclamation à ta mère. Hein. Non, bah merci, c'était très instructif. Et c'est... Pfiouf. Je sais pas si j'ai envie de me lancer dans la compétition en athlétisme, ça demande quand même beaucoup d'efforts en vrai. Hein. De ça ou n'importe quel autre sport, j'imagine, mais bon là... Bon, en tout cas, on sait où on va avec Antoine. Si on veut faire de la compétition, faut se préparer. Hein. Et en parlant de compétition, on va écouter un petit son là, qu'on nous a sorti de derrière les fagots. Bad Bunny avec Noé Bayol qui a fait l'ouverture du Super Bowl. Récemment.
Nueva York. quieres divertir. Otra vez lo sacamos al estadio.
Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Juega lo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Juega lo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Lo tienes que mover, ba, 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 ba. Lo tienes que mover, ba, 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 ba. Lo tienes que mover, ba, 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 ba. Lo tienes que mover, ba, 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 ba.
Et nous voici de retour sur Graphite 94.9 dans votre matinale
infernale.
Eh oui, la matinale qui dynamite votre réveil, surtout avec tout ce sport et ces vagues et ce surf qu'on a eu depuis le début de l'émission. Ouf. Alors, en parlant de vagues, Elsa, tu vas nous raconter quelque chose de très intéressant.
Prêt pour un nouveau départ pour le Japon ?
Youpi.
Oui, me direz-vous. Et vous avez raison de vouloir retrouver ce pays merveilleux. Aujourd'hui, on parle des catastrophes naturelles qui ont frappé le pays depuis des siècles. Pour commencer, expliquons en quelques mots pourquoi le Japon est si fréquemment touché par ces phénomènes, principalement les séismes et les tsunamis. Imaginez la Terre comme un immense puzzle. Le Japon se trouve à la jointure entre deux pièces, appelées plaques tectoniques du puzzle. Celles-ci se frottent régulièrement l'une à l'autre, créant des ondes qui remontent à la surface en créant des tremblements. Ce sont des séismes. Parfois, ceux-ci ont lieu dans l'eau. On parle alors de tsunami. Or, rappelez-vous, le Japon est un archipel. Par conséquent, il est entouré d'eau, et donc également sujet aux tsunamis. Le Japon doit essuyer pas moins de 50 000 séismes par an. Heureusement, la plupart d'entre eux sont si faibles qu'ils passent inaperçus. De plus, les Japonais sont à présent entraînés à réagir de la bonne manière en cas de danger. L'unité de mesure de la puissance sismique est la magnitude. Elle se classe sur l'échelle de Richter, qui part de 0 jusqu'à 9. Plus le chiffre se rapproche de 9, plus le séisme est dramatique. Revenons ensemble sur les séismes qui ont marqué l'histoire du Japon au fil des siècles. Le plus ancien séisme enregistré au Japon a frappé la préfecture de Nara le 28 mai 599, détruisant tout dans la province de Yamato. Cet incident a marqué le début d'un combat acharné contre la puissance géologique des catastrophes naturelles. Le 13 juillet 869, un tsunami ravage la ville de Tagayo, au large de la préfecture d'Iwate. Ce séisme des mers de magnitude 8,4 a tué plus de 1000 personnes, un bilan très grave pour l'époque. Le 31 décembre 1703, une double catastrophe naturelle a frappé. Un séisme qui tua 2300 personnes et un tsunami qui fit plus de 100 000 victimes. Des dégâts matériels furent enregistrés sur plus de 50 km. Un tsunami de plus de 13 mètres fut enregistré le 23 décembre 1854. Il suivit le séisme de la ville de Tokai et ravagea toute la baie de Suruga. Environ 2000 morts ont été enregistrés. À 11h38, le 1er septembre 1923, la ville de Tokyo est détruite par un incendie dû au séisme qui frappa une ville voisine. Au-delà des dégâts, l'incendie fit plus de 140 000 morts.
Oh, wow.
Il y a des années où aucun grand séisme n'a frappé le Japon, et d'autres où ils se sont ensuivis à quelques jours d'intervalle. En 2011, au mois de mars, un séisme s'est déclenché le 11, un autre le 12 et un dernier le 15. Le mois suivant, un séisme s'est enregistré le 7 avril, un second le 11 avril et un dernier le 12. Sur un mois, 6 séismes se sont déclenchés, un record pour le pays. Le premier de la série, le 11 mars, a été le plus violent jamais enregistré au Japon, à Fukushima plus précisément. De magnitude 9,1, il a fait quasiment 16 000 morts et plus de 2500 disparus. Le Japon a au fil du temps dû s'adapter aux séismes récurrents. À présent, des bâtiments antisismiques sont déployés dans tout le pays. C'est un bon exemple de l'incroyable adaptation de l'humain à son environnement. Et voilà, c'est tout pour cette fois. Mais j'ai hâte de vous retrouver pour vous en apprendre toujours plus sur le pays du soleil levant.
Bah merci Elsa. C'est impressionnant les séismes. N'est-ce pas Fatih ?
Ah oui, effectivement. D'ailleurs, vous allez voir, je vais vous parler d'un tsunami là. Oh là là. Allez, on y va alors.
On y va.
Eh bien, revenons donc à notre quatrième vague féministe à l'ère du numérique avec une petite frise historique. Eh bien, en 2012, l'écrivaine britannique Laura Betts crée la plateforme numérique Every Sexism, traduction sexisme au quotidien. Et c'est ainsi que débute l'archivage massif des témoignages en ligne qui va du harcèlement de rue à la discrimination au travail et aux agressions sexuelles. L'objectif est alors de rendre visible le sexisme bien invisible et normalisé. En 2015, en Argentine, commencent des manifestations massives contre les féminicides qui ont lieu en Amérique latine, avec le mouvement hashtag ni una menos, qui veut dire pas une
de plus,
de moins. Soit, au regard du nombre de femmes effectivement tuées sur ce continent. En 2017 arrive enfin la libération mondiale de la parole à propos des violences sexuelles faites aux femmes avec les emblématiques hashtag
MeToo
oui, et son équivalent français hashtag
balance
ton porc.
Oui.
Quel travail, Dick.
Wow. Ce mouvement est considéré à ce jour comme la plus grande secousse sociétale du 21e siècle en matière de rapport de genre. Eh bien, c'est le cœur du tsunami, petit clin d'œil à Elsa. Si je puis dire, donc le cœur du tsunami de la quatrième vague. Toujours en 2017, c'est une sacrée année, hein, a lieu l'une des plus grandes manifs d'une journée de l'histoire américaine, la Women's March, en réponse à l'élection de Donald Trump et sa misogynie malheureusement légendaire. Bon, et en plus, il a été réélu depuis, bref. En 2020, lors de la quatrième cérémonie des Césars, l'actrice Adèle Hanel quitte la salle en criant la honte, quand Roman Polanski, sous le coup d'une énième accusation de viol, et recherché même par Interpol, hein, reçoit le prix de la meilleure réalisation pour son film « J'accuse ». Virginie Despentes, qui est écrivaine et réalisatrice française, écrit alors une tribune dans le journal Libération en soutien à l'actrice avec cette phrase « on se lève et on se casse. Et c'est devenu un slogan pour les militantes féministes qui refusent désormais de légitimer les violences sexistes et sexuelles par leur présence. Pour rappel, Adèle Hanel a subi des agressions sexuelles par le réalisateur Christophe Rougia, qui a été depuis condamné. En tout cas, on peut dire désormais que la honte a changé de camp. Et depuis 2022, on assiste à une remobilisation massive pour le droit à l'avortement face au renversement de l'arrêt de la Cour suprême américaine, Roe v. Wade, mais désolé pour l'accent, bref. Vous l'aurez compris, notre quatrième vague submerge les structures de pouvoir et les fondations de notre société patriarcale. Désormais, on dénonce la culture du viol et on met en avant le consentement, avec la dénonciation du harcèlement de rue, des agressions sexuelles et de l'impunité des agresseurs puissants, dont l'affaire Epstein a été un détonateur. Désormais, on valorise le corps physique au sens politique. C'est ce qu'on appelle la body positivity, avec l'acceptation de tous les corps et le refus des normes de beauté patriarcales autour de la pilosité, du poids ou encore des règles. Désormais, la charge mentale des femmes et leur travail invisible au sein du foyer est mise sous une lumière éclatante. Ainsi, je vous le dis, la quatrième vague que nous traversons produit déjà des résultats tangibles, juridiques et culturels. Au temps où on devait attendre des décennies à minima pour que le monde protège les droits des femmes est révolu, et c'est tant mieux. Merci les réseaux, merci les hashtags. Alors, donc, quels sont donc ces résultats, d'ailleurs, que je vous avais promis lors de ma première chronique, lors de cette émission? Eh bien, ben, je vous invite à écouter ma prochaine chronique pour le découvrir.
Ah, mais quel teasing à chaque fois.
Suspense.
Bon, elle n'aura pas lieu aujourd'hui, cette prochaine chronique, n'exagérons pas. Mais attention, dans 15 jours, nous y aurons droit.
Oui,
super. On va finir cette émission, déjà, par une petite note de soleil.
Apaisante. Après cette tsunami et ce sport du samedi matin.
Voilà, je ne sais pas si vous êtes encore dans votre lit, mais là, vous allez pouvoir vous détendre en écoutant la marin baladeuse. Il parmigiano, lo zafferano, la mozzarella e la cannella, la pasta al pesto.
Si je vous dis « il bel paese », vous le reconnaissez? La beauté naturelle et la richesse culturelle. Allez, enfourchez la Vespa, je vous y emmène. La Toscana, ancora. Petit saut dans le temps. Nous nous transportons au XVe siècle, toujours en littérature et toujours à Florence. En 1492, Charles VIII et son armée française entre dans la ville qui doit négocier son indépendance. Le siècle et la ville voient apparaître Nicolas Machiavel et son machiavélisme. Mais le connaît-on aussi bien que nous le pensons? Humaniste italien, courant de pensée initié par Pétrarque avec un retour aux textes antiques, Machiavel observe de près la mécanique du pouvoir et le jeu des ambitions concurrentes. Il est tout de même l'un des fondateurs de la politique moderne. Une conception de la politique prônant la conquête et la conservation du pouvoir par tous les moyens. Quel synonyme vient à l'esprit à l'évocation du machiavélisme? Tous négatifs. Calcul, manipulation, cynisme, intrigue, artifice, astuce, ruse, rouerie, fourberie, roublardise, manigance, hypocrisie, dissimulation, perfidie. L'un de ses ouvrages intitulé « Le prince » a été mis à l'index. L'index est, outre l'un des doigts de la main, une liste d'ouvrages que les catholiques romains n'étaient pas autorisés à lire du tout, du tout, du tout. En voici un extrait. Le prince est souvent obligé, pour maintenir l'État, d'agir contre l'humanité, contre la charité, contre la religion même. Il faut que, tant qu'il le peut, il ne s'écarte de la voie du bien. Mais qu'au besoin, il sache entrer dans celle du mal. Le peuple italien, pour livrer ce qu'il a à dire, recourt à d'autres moyens que les mots. Peinture, sculpture, musique. Mais pourquoi? Peut-être parce que l'italien écrit est toscan par le vocabulaire, mais reste latin dans sa syntaxe. Le divorce entre langue écrite et langue parlée est consommé dès l'origine. Ainsi, jusqu'au XIXe siècle, peu de grandes œuvres. Puis, un bonhomme de bois, au nez qui s'allonge, surgit dans le paysage du petit village de Collodi, situé au nord-ouest de Florence. Carlo Lorenzini, dit Collodi, crée les aventures de
Pinocchio.
Pinocchio ! Le divorce évoqué plus haut a malgré tout permis d'engendrer de beaux petits. Déplaçons-nous maintenant à l'est de Collodi, exactement à Prato, qui voit naître Curzio Malaparte. En 1955, il écrit ses sacrés toscans. Je le cite. « Io so di Prato, ma cotanto de sel di Prato, e se non fossi pratese, vorrei non esser venuto al mondo. » Ce qui signifie « Je suis de Prato, je me contente d'être de Prato, et si je n'y étais pas née, je voudrais n'être jamais venue au monde. » Jamais venue au monde, pardon. C'est dire l'importance affective que Malaparte attachait à la Toscane et surtout aux habitants de Prato et de sa région dont il revendique l'esprit d'anarchie. Malaparte écrira plus tard dans « Le soleil est aveugle » ce qui suit. En haut, sur les pics et sur les névés, sur l'immense chaîne des Alpes savoyardes, lointaines et précises dans le ciel de soie pâle, sur cette fuite ininterrompue d'aiguilles scintillantes et de glaciers bleus, l'air limpide et immobile a une cruauté vierge. Et que pensez-vous de cette fameuse phrase ? Napoléon s'appelait Bonaparte et il a mal fini. Je m'appelle Malaparte et je finirai bien. À bientôt pour une prochaine balade dans le Latium.
J'adore cette dernière phrase. Elle est trop marrante. Et puis elle est positive.
Voilà.
Et c'est bien de commencer le week-end par une note positive.
Oui, après le sport.
Bon, je ne sais pas ce que vous faites ce week-end, mais on va terminer avec une petite musique tranquille qui va nous faire voyager, que vous connaissez tous, mais voilà, qu'on aime, sur laquelle vous avez aussi le droit de chanter. Je parle aux auditeurs, pas à vous. On va éviter ça aux auditeurs. En tout cas, merci beaucoup à tous mes chroniqueurs, Elsa, la marin baladeuse, Fatih, la féministe et Antoine, pour cette belle émission encore. Merci pour votre implication, pour ces ateliers que nous menons ensemble et qui nous donnent de belles chroniques.
Merci.
Merci à toi, Ro.
Allez, bon week-end à tous. Et on termine avec Lily Cube, voyage en Italie.
Faire une virée à deux, tous les deux sur les chemins. Dans ton automobile, tous les deux on sera bien. Et dans le ciel il y aura des étoiles et du soleil quand on mettra les voiles. S'en aller tous les deux dans le sud de l'Italie. Et voir la vie en bleu, tout jouer sur un pari. Toute la nuit danser le calypso, dans un dancing avec vue sur l'Arno. Au milieu de la nuit, un catinina, et va la nave, et va la douce vie. On s'en ira toute la vie danser le calypso. S'en aller au matin, boire un dernier martini.